Nous vous proposons maintenant une conférence donnée dans le cadre d'un cycle de formation doctrinale, culturelle et méthodologique dont le titre est « Passeur d'hommes ». Comment être humain et devenir un véritable disciple missionnaire ? Aujourd'hui, Anne de la Doucette répond à la question « Être une bonne personne ? Comment construire une personnalité en fonction d'un tempérament ?» Bonne écoute et bonne réflexion.
Alors, comment être une belle personne ? Comment construire une personnalité à partir d'un tempérament ? On vit aujourd'hui, comme l'a expliqué Frère Emmanuel, dans une société en pleine évolution, accélérée, qui donne parfois le tournis, où tous les repères culturels, spirituels, civilisationnels sont en ébullition. Pour s'y intégrer, pour trouver sa place, comme il nous semble juste, c'est parfois bien difficile. Alors, pourquoi agir dans notre société ? Parce que nous avons chacun un rôle à jouer au service de cette société. On s'est bien rendu compte qu'il n'y avait pas d'homme politique miracle, qu'il y avait avant tout une multitude d'individus qui participent chaque jour à l'édification du bien commun. Par leurs actions, si anodines et discrètes soient-elles. Mais pour agir, il faut d'abord savoir qui l'on est. Quels sont nos talents et quelles sont nos faiblesses? Comment les cultiver pour donner du beau, du bon, du vrai, pour nous-mêmes comme pour les autres? C'est le sujet du topo de ce soir. Je vais reprendre un petit peu la notion d'acte humain que vous aviez vue avec Frère Emmanuel, et puis nous allons voir d'autres notions. Mais je voudrais vous résumer en quelques phrases le contenu de cette conférence, même si Henri a commencé à le faire à ma place, ce qui est très bien. Plus c'est répété, mieux c'est intégré. La personne humaine est composée d'un tempérament et d'un caractère. Le tempérament est une prédisposition innée à réagir d'une certaine manière. Le caractère, lui, est composé de vertus. Les vertus, ce sont des habitudes morales acquises et développées par la pratique. Nous ne sommes pas nés avec notre caractère. Le caractère est quelque chose que nous construisons chaque jour. Nous en sommes responsables. À l'heure où l'on parle que de progrès, voilà ce que disait Solzhenitsyn à propos du progrès. Il ne peut y avoir qu'un seul progrès. Il est la somme des progrès spirituels accompli par les individus, le degré de leur perfectionnement moral tout au long de leur vie. C'est donc la manière dont chacun de nous fait fructifier ou non ses talents. Alors vous voyez deux personnes sur cette diapositive. Tout en haut à droite, le professeur Lejeune, c'est un généticien qui a découvert l'origine de la trisomie 21 avec ce chromosome en plus qu'ont ses enfants. C'était en 1969. Je voulais vous présenter parce que ce sont des belles personnes. En 1969, il a découvert donc ce chromosome en plus. Il est au sommet de sa gloire. On pense qu'il va avoir le prix Nobel de médecine et part aux États-Unis à un congrès de généticiens qui rassemble les généticiens du monde entier. Et en arrivant sur place, quelle n'est pas sa stupeur et son effroi de voir que ses collègues veulent utiliser sa découverte, non pas pour soigner les enfants porteurs de trisomie 21, mais pour supprimer les embryons porteurs de trisomie 21. Et là, il a le choix, un choix qui va déchirer de sa vie. Soit il choisit la vérité, ce qui paraît pour lui la vérité, c'est-à-dire que toute vie mérite d'être vécue, et il le dit haut et fort. Soit il ne dit rien et il fait une très belle carrière. Et voilà ce qu'il dit devant tous ses confrères réunis en colloque. Il faut dire clairement les choses. La qualité d'une civilisation se mesure au respect qu'elle porte au plus faible de ses membres. À partir de ce jour-là, il n'a pas eu le prix Nobel, il n'a plus été invité dans les colloques, il n'a eu plus les subventions publiques, sa carrière a été brisée. Mais il a préféré la vérité et la protection des plus faibles à sa carrière. Le deuxième personne que vous voyez, Voilà, on parle d'un médecin. Après, c'est un chef d'entreprise, père de 8 enfants. C'est Éric Mestrallet. C'est le fondateur d'Espérance Banlieue. Vous savez qu'à Toulouse, il y a une école qui s'est montée avec Arnaud Desabiel, très courageusement. Eh bien, Éric, il a arrêté son travail pour monter ses écoles dans les banlieues pour ses enfants défavorisés, pour qu'ils aient une éducation complète. Leur donner une structure morale, mais aussi intellectuelle, spirituelle. Voilà. Et aujourd'hui, il y a 16 écoles, donc c'est un beau succès. Une belle personne qui est partie comme ça de rien et je pense que Dieu l'a aidé dans ses vocations. Troisième personne, un chef d'entreprise, François Michelin. François Michelin, bon, il est mort il y a quelques années, il est maintenant remplacé par Jean-Dominique Sénard. C'est une très belle boîte, la boîte Michelin. Mais il avait deux buts dans le développement de sa société. La première, c'était la mettre la technologie à pointe de la technologie, qu'elle reste une entreprise de poids sur le marché international. Et il a réussi. Et la seconde, qui était un autre challenge beaucoup plus difficile, c'était que l'homme, dans son entreprise, reste au centre. Que l'homme ne soit pas au service de l'économie, mais que l'économie soit au service de l'homme. Et il a réussi. Donc, un beau patron, une belle personne. Et enfin, une dernière personne, une femme, quand même, et pas n'importe laquelle, Mère Teresa, ce petit bout de femme qui a fait brûler de charité une partie du monde. Tout ça parce qu'en allant dans la rue, elle a voulu. Tout ça parce qu'en allant dans la rue, elle a voulu apporter la dignité aux personnes mourantes. Et Dieu l'a aidée énormément dans sa vocation. On verra qu'il lui a diffusé une grâce de la charité extrêmement forte, puisque son œuvre s'est énormément développée dans le monde. Voilà. Alors, je vous propose de porter en 4 parties. On va d'abord revoir l'acte humain. Qu'est-ce que c'est que l'acte humain que vous avez vu avec Emmanuel, mais un petit rappel n'est peut-être pas mauvais. Après, on va voir ce que c'est que le tempérament et comment on cultive son tempérament grâce à deux, entre guillemets, outils qui sont l'habitus et les vertus. Après, nous verrons les 4 types de tempérament et peut-être que vous vous reconnaîtrez dans ces types de tempérament. Et enfin, on finira par la grâce pour ce qui est quand même le plus important. Alors, L'acte, on voit que Dieu, dans la Genèse, l'homme est la seule créature que Dieu a voulu pour lui-même. Et de ces faits, ces actes se différencient par leur nature de ceux des animaux. Les animaux agissent en fonction de leurs réflexes et de leurs instincts. Un réflexe est le résultat des sens externes. L'ouïe, l'odorat, le toucher, la vue. Si je suis dans une pièce noire et que je sors à la lumière, j'aurai le réflexe de fermer les yeux. Un instinct, c'est le résultat de nos sens internes. La mémoire cogitative, le sens commun, l'imagination, mais surtout de nos passions. On sera en colère devant une situation d'injustice. Un chien aboiera s'il a peur. Un enfant, quand il traversera la route, s'il voit le petit bonhomme vert, il saura qu'il faut qu'il traverse. Ça, ce sont les instincts. Mais l'homme possède d'autres facultés qu'il ne partage pas avec l'animal, qui sont l'intelligence et la volonté. L'intelligence, ça vient du mot latin interlego, qui signifie faire le lien. Faire le lien entre sa mémoire, ses sensations et utiliser sa raison pour analyser toutes ces composantes. Et c'est là, donc c'est un travail, en fait, c'est un travail que le cerveau travaille dans l'abstraction. Hein. Et c'est là que le langage est primordial, parce que le langage, il nous permet de mettre des mots sur ce que nous ressentons. Et on dit que les femmes ont un avantage, c'est comme elles parlent toutes seules, et bien elles arrivent beaucoup mieux à mettre les mots sur ce qu'elles ressentent. Quelqu'un qui n'aura pas... Pas toujours, hein, mais bon. Quelqu'un qui n'aura pas des mots pour s'exprimer, comme un enfant, eh ben, il aura du mal à maîtriser ses passions. Un petit garçon qui ne peut pas parler, eh ben, il pètera en colère s'il comprend, on ne le comprend pas, ou il se mettra à pleurer. Donc le langage est extrêmement important pour apprendre à travailler notre intelligence. Alors vous voyez que l'homme est à cette intelligence. Cette intelligence va lui permettre de discerner, de porter un jugement sur tous ces éléments qui arrivent à son esprit. Et c'est là où va peut-être se mettre en place la volonté. Jean-Paul II définit la volonté comme la capacité d'aimer le bien. L'homme, étant créé à l'image de Dieu, intrinsèquement, par son essence, il va chercher la vérité, il va chercher le bien, il va chercher la liberté, le beau, c'est la voix de sa conscience qui s'exprime. Alors, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on est marqué par le péché originel et que du coup, c'est plus difficile de trouver la vérité, le beau, le bien. L'homme, la dignité de l'homme, elle vient justement que par le fait de son intelligence, elle a cette liberté d'action. C'est à la fois un don énorme que nous fait le Dieu et c'est à la fois une énorme responsabilité. Plus nous avons des actes humains, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus nous marchons vers la sainteté. Alors, comme l'a dit tout à l'heure Henri, eh ben d'abord, pour agir, il faut se connaître. Voilà, sur les frontons de Delphes était écrit « Nooti sauton ». Peut-être qu'il y a des Grecs qui parleront mieux que moi, mais c'est ça. Alors, nous allons voir en deuxième partie le tempérament, l'habitus et les vertus. Le tempérament, comme je l'ai dit à l'instant, c'est une prédisposition naturelle et innée à réagir d'une certaine manière. C'est un don de la nature et ultimement un don de Dieu. Nous naissons avec notre tempérament et nous ne pouvons pas en changer. Nous n'en sommes pas responsables, nous n'avons pas à culpabiliser de notre tempérament. Et moi, quand on m'a dit ça, ça m'a vraiment soulagée. Nous mourrons avec les qualités et les défauts de notre tempérament. Il faut bien s'y faire. En fait, le tempérament, c'est un type d'organisation de nos passions. Et ce mélange de passions est différent pour chacun d'entre nous. On est habité par des passions, elles sont toutes différentes, et notre tempérament, il va se modeler en fonction de ces passions. Il y a deux grands types de passions, et elles portent le nom des appétits qu'elles suivent. Il y a les passions irascibles, comme la colère, qui sont l'espoir et son contraire, le désespoir, la peur et le courage, la colère. Il y a les passions concupiscibles, qui sont l'amour et la haine, le désir et l'aversion, la joie et la peine. Alors, je vais vous mettre le char d'Aristote que je trouve très expressif, qui explique bien en fait comment se compose un acte humain. Vous avez les deux chevaux, normalement il va y en avoir un blanc et un noir, mais là je n'ai pas trouvé, qui représentent les passions, chaque type de passion. Les chevaux sont fougueux, ils avancent, et vous avez le cocher qui représente l'intelligence. Alors le cocher, il a les rênes, et avec les rênes, il doit à la fois maîtriser les passions et donner la voie, la finalité de l'acte, dans quel sens je m'engage. Et la dernière chose qu'il y a, c'est le fouet. Le fouet, c'est la volonté qui va nous faire agir. Alors, il faut voir que les passions qui sont en nous, elles sont, comme le disait tout à l'heure Henri, elles sont ambivalentes. Par exemple, l'irascibilité naturelle, eh ben, elle peut être négative lorsque l'on s'emporte rapidement ou qu'on porte un jugement rapide sur quelqu'un, ou elle peut être positive, quand j'entendais Marie un jour me dire « je suis très en colère parce qu'il y a des personnes âgées qui arrivent à la caisse et il leur manque 2 centimes pour acheter leur tranche de jambon ». Ça la mettait en colère, c'était une saine colère. Les forces intérieures, elles peuvent se développer aussi pour un bien comme pour un mal. Il faut les accepter, il faut les aimer parce que sans elles, on ne fait rien. Si on n'avait pas de passion, on serait des mollusques. Hein, il faut bien se dire ça. Donc, le déploiement des passions produit notre tempérament. Alors, il y a 2 écueils possibles quand on a un tempérament. La première, c'est celle de Gaston, qui se dit « je suis né comme ça, j'y peux rien, tant pis, voilà, je vis ma vie, je vis ma petite vie, pas trop d'efforts, pas de vertus, pas d'habitus, voilà. » Et puis, le deuxième, et elle est double, c'est celle de refuser son tempérament. C'est de dire le vouloir à changer à tout prix avec sa volonté. Ça, c'est un peu une forme de toute puissance. C'est je suis ce que je décide d'être. C'est un peu la dérive de notre société actuelle qui refuse notre loi naturelle. Et puis, il y a une autre déviance qui est aussi propre à notre société, je trouve, et parfois à notre milieu, c'est qu'il faut que les gens rentrent dans des cases. Pour être bien, on doit cocher un certain nombre de cases. Et tout le monde ne peut pas cocher toutes les cases. Ça, c'est comme ça. On a des tempéraments différents. Et heureusement, sinon, ça serait très ennuyeux. Et certaines personnes, pour être bien, tentent de cocher toutes les cases. Et au bout d'un moment, ça explose. Ce n'est pas possible parce que la nature revient au galop. Et on ne peut pas. Il faut accepter son tempérament. On peut faire de très belles choses, quel que soit son tempérament. J'aime beaucoup le petit poussin. Là. Je trouve qu'il est formidable. Alors, il y a 4 types de tempéraments. Hein. On va voir qu'à partir de la personnalité, ça va être créé par le tempérament qui est une prédisposition innée. Donc ces 4 types de tempéraments sont colérique, mélancolique, sanguin ou flegmatique. Ça diffère selon les pays. Je ne vous cacherai pas, je ne vous étonnerai pas si je vous dirais que les Espagnols sont un peu colériques, que les Italiens sont sanguins, que les Russes sont mélancoliques ou que les Finlandais sont flegmatiques. Alors en France, nous, on a un beau mélange. Comme aux États-Unis, il n'y a pas de trait dominant de tempérament. Sur la base de notre tempérament, nous allons forger notre caractère. Le caractère, c'est une prédisposition acquise. C'est la façon dont nous travaillerons le tempérament avec l'aide des vertus et de l'habitus que nous obtiendrons notre caractère. Le caractère, il est composé de vertus dont les plus importantes sont, comme l'a dit Henri, la prudence, le courage, la maîtrise de soi, la justice. Et j'en rajouterai 2 qui nous paraissent aussi importantes, qui sont la magnanimité, le fait de voir les choses grandes, et l'humilité, qui est le service et la connaissance de ses limites. Les vertus, ce sont des habitudes morales, des forces spirituelles acquises et développées par la pratique. Nous ne sommes pas nés avec notre caractère, je vous le répète, le caractère est quelque chose que nous construisons et par l'éducation du caractère, nous apprenons à surmonter les faiblesses de notre tempérament. Alors l'autre jour, on a eu un sermon chez Dominicain en semaine d'un jeune Dominicain qui m'a beaucoup marqué et je voulais le partager. Il racontait que quand il avait, à propos de l'éducation justement, quand on élève des enfants, il y a une partie au début où c'est du dressage et on met des règles, et après on fait appel à leur intelligence. Et il racontait qu'il était à l'école, il avait 15 ans, c'était quelqu'un qui était plutôt brillant. Et puis quand on ne travaille pas, et ben 15 ans, les notes s'écroulent. Et les parents commencent à s'énerver, sa pauvre mère s'excitait, le punissait, rien n'y faisait. Et elle faisait du dressage. Et puis son père est rentré dans sa chambre un soir, sans rien dire. Il avait la Bible à la main, il a ouvert la Bible. Il a lu la parabole des talents, il a refermé la Bible et elle est ressortie. Et là, il s'adressait à son intelligence, à sa liberté, et ça a changé. Ça a tout changé. Il me dit, j'ai compris que c'était à moi de prendre mes responsabilités. Donc pour des parents, je ne sais pas si ça marche à chaque fois, mais je vous le dis quand même. Bon. Alors, comment on va surmonter nos faiblesses et à quelle fin? Parce que la finalité de nos actes, c'est aussi important que ce soit le bon, le vrai, la vérité. Sinon, l'acte n'est pas bon et on ne se rapproche pas de Dieu et on ne fait pas du bien. Alors, par l'habitus. L'habitus, alors ce n'est pas une synonyme d'habitude. Hein. C'est pas « je vais acheter mon pain tous les matins ». Ça serait plutôt « je vais faire un effort insurmontable ». J'arrive dans la cuisine, ils sont tous réunis pour le petit déjeuner, il y a un boucan d'enfer, j'arrive, je garde mon calme et je souris. Et à force de sourire tous les matins, ça devient un réflexe. Je pense que ça parle à certains d'entre vous. Hein. Ça vient du latin « c'est aberré », c'est d'origine médiévale, ça a été repris par saint Thomas d'Aquin, qui dit « l'agit sur l'être », on va le définir après. Cela ne veut pas dire posséder intérieurement, mais c'est plutôt dans le centre d'être. C'est une disposition qui naît en nous par le fait de répétition d'actes. Cela devient comme une seconde nature. L'habitus parfait notre nature, la perfectionne. Elle nous aide à agir selon la droite raison. Alors, il y a différents types d'habitus. Par exemple, je morale, je vais essayer de m'entraîner à ne pas mentir. Les premières fois, c'est difficile, et puis ça devient une habitude, l'habitus. Et finalement, de mentir deviendra presque difficile. Au contraire, si je commence à mentir, ça devient un vice, et alors là, je suis pris dans mes mensonges, et je ne m'en sors plus. Hein? Voilà. Et puis ça, il y a aussi, c'est un habitus moral, mais il y a aussi des habitus artistiques. Je vous ai mis un petit personnage qui joue du piano. Il commence par faire ses gammes, c'est laborieux les gammes. On en fait une, voilà, 20 minutes, 15 minutes. Et puis à la fin, les doigts atteignent une certaine agilité. 3-4 ans après, on joue une valse de Chopin sans aucun problème. Ça, c'est un habitus artistique. Ces gammes sont devenues comme une seconde nature. Saint Thomas d'Aquin dit donc que l'agir suit l'être. Celui qui agit, agit toujours en conformité avec son être. Et c'est important, parce que si on ne le fait pas, on prend un risque, comme dit Paul Bourget, quand il dit « Quand on ne vit pas comme on pense, on finit pas toujours par penser comme on vit. » Maintenant, nous allons voir les vertus. Alors, nous surmontons nos passions par la pratique des vertus. Je suis sûre qu'on est tous un peu Monsieur Jourdain, on pratique les vertus sans même s'en rendre compte. Parfois, on en est conscient, d'autres fois, on n'en est pas du tout. On a vu qu'il y avait 4 vertus cardinales, qui étaient la tempérance ou la maîtrise de soi, la prudence, la justice, la force ou le courage. Ce sont les 4 points cardinaux du caractère. Alors, il y a deux écarts possibles dans la pratique des vertus. Il y a le socratisme, qui, comme le nom l'indique, vient de Socrate. C'est le fait de ne chercher c'est la finalité. C'est le fait de ne chercher qu'à être une belle personne. On devient son but et sa finalité, et non la mise à la disposition de nos talents pour autrui. Et ça peut être... je ne sais pas si vous avez vu les chariots de feu. On voit très bien les chariots de feu. Ce jeune juif qui veut se prouver qu'il est bon, qui a besoin de se prouver quelque chose et qui court pour gagner la course. Et puis ce jeune fils de pasteur, je crois qu'ils sont irlandais, qui lui considère que ses jambes sont son agilité est due à Dieu et court pour Dieu, pour rendre grâce à Dieu. Et on lui demandera pour les Jeux Olympiques de courir le dimanche et il refusera parce que dimanche c'est le jour de Dieu. Ou sinon, il y a des emplois, ça peut être très insidieux. Par exemple, j'aime pas beaucoup cette expression, mais je vais faire de l'humanitaire pour soigner mon empathie. Ça, la finalité, elle n'est pas bonne. Hein? Parce que le but, d'abord, c'est quand qu'on va servir les autres, c'est de servir les autres, c'est pas de servir son empathie. Et que si on y va en servant les autres, naturellement, on développera son empathie. Le contraire serait plutôt d'inspiration kantienne. Je n'agis que par don. Mais quand on agit que par don, on est incapable de recevoir de l'autre. On se ferme à la relation. Et il y a une forme de dessèchement. Ça ressemble un peu à cette morale bourgeoise du 19e où on faisait sa charité. Ce n'est pas comme ça qu'il faut pratiquer les vertus. Alors, autre point. La pratique des vertus, elle est entravée par le péché originel et nous devons être conscients qu'une vertu n'est jamais acquise, qu'elle doit être pratiquée sans relâche, dans chaque acte, en fonction de notre conscience. Mais ce qui est formidable, c'est que la pratique d'une vertu facilite la pratique d'une autre vertu et c'est un cercle vertueux. Et pour le vice, malheureusement, c'est pareil aussi. Hein. Je vais vous passer une toute petite vidéo de Alexandre Danine Harvard. Alexandre Danine Harvard est un franco-russe qui a ouvert l'Institut du leadership vertueux à Moscou. Il a écrit ce livre que je vous conseille fortement, dont je me suis fortement inspirée, je ne vous cache pas. Et qu'il est un passionné des vertus et un passionné du leadership. Je vous mets la vidéo.
Alors d'abord, il y a ce qu'on appelle les 4 vertus fondamentales de la personne, qui sont des vertus qui nous permettent d'être des êtres humains à part entière, qui ne sont pas les vertus spécifiques du leadership, mais qui sont les vertus fondamentales sur lesquelles s'appuie le leadership. Je répète ces quatre vertus dont on a tous entendu parler à l'école, parce qu'on a tous lu un petit peu Platon et Aristote, à notre époque en tout cas. Et on se souvient que les anciens Grecs, ça fait pratiquement 3000 ans ou 2500 ans, qu'ils nous disent qu'il y a quatre vertus fondamentales, qu'on appelle la prudence, ou la sagesse pratique, le courage, ou la force en français, la maîtrise de soi, ou la tempérance, et la justice. Ces quatre vertus, ce sont des vertus fondamentales, c'est-à-dire que toute notre vie morale s'appuie sur ces quatre vertus. La première vertu, c'est la vertu de prudence ou sagesse pratique, qui est la vertu qui te permet de prendre les bonnes décisions. Donc une personne prudente, ce n'est pas une personne qui ne prend jamais de décision, c'est une personne qui est capable de prendre des décisions et des décisions qui soient bonnes. Et donc c'est une vertu qu'on développe, c'est la capacité de saisir le contexte politique, économique, personnel, humain, des personnes avec lesquelles on travaille, des décisions qu'on est en train de prendre, et de prendre une décision qui correspond à ce contexte que tu saisis par ton intelligence pratique. C'est la vertu de prudence. Cette prudence est un atout énorme dont on a absolument besoin pour vivre dans la vie ordinaire. La deuxième vertu dont nous parlent les Grecs, tu t'en souviens, c'est la vertu de courage, qui est une double vertu. C'est la vertu d'endurance, donc c'est la capacité de maintenir le cap pendant longtemps et de ne pas louvoyer ou de ne pas faire marche arrière toutes les 5 minutes en fonction de ce que pensent les gens autour de toi. Et c'est aussi la capacité d'audace. Hein, c'est le courage actif, c'est la capacité de prendre des risques. Ce sont des capacités incroyables. C'est la vertu de courage. La troisième vertu dont nous parlent les Grecs, les anciens Grecs, c'est la vertu de maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est la capacité, non pas de détruire ses passions et ses émotions, mais de les diriger et de les utiliser pour le bien. De les utiliser pour le bien commun et pour le développement de la personne. Donc de ne pas se laisser manipuler par ses propres émotions, mais d'utiliser l'énergie de ses propres émotions pour injecter cette énergie, si je puis dire, dans toutes tes actions. Et la quatrième vertu de base pour les anciens Grecs, c'est la vertu de justice, qui est la capacité de donner à chacun ce qui lui est dû. Ce sont toutes les vertus de la communication. Toutes les vertus de la communication, c'est l'empathie, l'amitié, la capacité de pardonner, donc la miséricorde, la capacité d'aimer les êtres humains en général. Et c'est aussi la capacité de construire le bien commun. Donc ce sont des personnes qui ont conscience de ce qu'est la famille, conscience de ce qu'est le travail, conscience de ce qu'est la collectivité, des gens qui construisent le bien commun. Donc tu vois, il y a deux aspects dans la vertu du courage, c'est cet aspect communication et cet aspect construction du bien commun. C'est une vertu du caractère, c'est pas un concept seulement juridique ou social, de la science sociale, c'est un concept réellement d'anthropologie. Il n'y a pas de société juste là où il n'y a pas d'individu juste, ça c'est clair et net. Ça c'est le grand problème du monde moderne, on veut créer une société juste, mais on fait rien pour développer des individus qui soient justes. Tu vois, société juste, sans individu juste, nous dit Platon, vous êtes complètement fous.
En opposition à Kant d'ailleurs, qui dit que même un peuple de démons ou une bande de brigands peut se donner un minimum de lois pour arriver à une sorte de moins mal commun.
Voilà, mais alors ça on en parlera plus tard, ce sera un autre sujet qui sera le sujet de l'éthique de la loi et de l'éthique, ouais, l'éthique des règles et l'éthique de la vertu. C'est un autre sujet. Mais là, ce que je viens de te dire quels sont les fondements du leadership. Ce sont ces quatre vertus, donc virtus en latin, qui sont des forces. Le mot virtus veut dire force, énergie. Quelque chose qui nous donne une capacité de faire quelque chose. Enfin, ces quatre vertus fondamentales te donnent la capacité de prendre les bonnes décisions, la capacité de maintenir le cap et d'être audacieux, la capacité de diriger tes émotions et de ne pas te laisser manipuler par tes émotions ou tes passions, et quatre, la capacité de donner à chacun ce qui lui est dû. Donc ce sont des forces, ce sont des pouvoirs. Tu vois, aujourd'hui on parle beaucoup de valeurs, mais il y a beaucoup de gens qui ont des valeurs très élevées, mais comme ils n'ont pas la force, la vertu pour les réaliser, eh bien, ils ne les réalisent pas. Et alors tout est dévalorisé. Pourquoi? Parce que ce sont des très belles valeurs, mais la personne n'a pas la force de le réaliser. Tu vois? C'est comme une personne qui me dit la famille est pour moi une valeur extraordinaire, mais après tu te rends compte que cette personne n'a pas développé depuis qu'elle est jeune en elle-même la maîtrise de soi. Si tu n'as pas un minimum de maîtrise de soi, tu ne peux pas te marier. Parce que ton foyer va s'évanouir demain. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas vivre avec quelqu'un si tu n'as pas de maîtrise de soi, surtout pendant des années. Donc, tu peux avoir des très hautes valeurs, mais si tu n'as pas la vertu qui te permet de réaliser ces valeurs, eh bien, tes valeurs, elles ne sont pas réelles. Il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans.
Voilà pour les vertus présentées par Alexandre Dianine-Harvard, qui a une fougue tout à fait exceptionnelle pour les présenter. Alors, Après ces vertus, eh ben on va voir quels sont les tempéraments. Et il y a quatre types de tempéraments. Alors, ce que je vous propose, c'est en écoutant, essayez de voir si vous vous retrouvez dans un de ces tempéraments. Pas votre conjoint à votre gauche, pas votre bonne copine. Non, vous. C'est ça qui est important. Après, on peut échanger. Mais l'essentiel, c'est d'abord de s'occuper de soi, je pense. Il y a déjà beaucoup à faire. Alors, les quatre tempéraments se définissent de la manière suivante. Il y a le colérique. Le colérique, il est orienté vers l'action. Le mélancolique, c'est l'idée qui l'occupe. Le sanguin, lui, va vivre de sa relation avec les personnes. Le phlegmatique, il va chercher avant tout la paix. Alors notre tempérament nous incline dans une direction ou dans une autre. Le colérique, il est enclin à faire de nombreuses choses, mais il lui coûte de prendre soin des personnes. Le mélancolique est enclin à contempler de belles idées, mais il lui coûte de les mettre en pratique. Le sanguin est enclin à pratiquer ses sentiments avec les autres, mais il lui coûte de mettre la dernière pierre à ses projets. Le phlegmatique est enclin à analyser les processus, mais il lui coûte de se mettre à rêver de grandes choses. Alors la vertu, elle va compenser les défauts de nos tempéraments. Le colérique, qui pratique l'humilité, il va prendre soin des personnes. Le mélancolique, qui pratique le gaz, va s'engager dans l'action. Le sanguin, qui pratique l'endurance, termine ses projets. Le phlegmatique, qui pratique la magnanimité, rêve en grand. Alors, on va commencer par le premier, qui est pas le premier, le colérique. Alors, je vous ai mis en fond d'image Paul, Saint Paul, parce que c'est un caractère, c'est un peu comme Saint François, très colérique. Lui, c'est la finalité de son action qui n'était pas bonne, parce qu'il a mis autant d'énergie au début à lutter contre les chrétiens qu'après, après sa conversion, quand Dieu l'a assommé par la grâce, à aller annoncer la parole, à traverser l'Asie mineure jusqu'au martyr. Alors, on n'a pas besoin d'être martyr hein, pour être une belle personne, je vous le dis tout de suite, hein, parce qu'il y en a deux dans mes images, mais c'est pas... Alors, quelles sont les forces du colérique ? Eh bien, le colérique, il est réactif, il est énergique, il est stable, il a confiance en lui et il est enthousiaste. Il est entrepreneur, c'est un manager efficace, il assume bien le pouvoir, il est tourné vers l'action, il est sûr de lui, mais la délibération lui coûte. Quelles vont être ses faiblesses ? Parce qu'il faut bien qu'il en ait un peu quand même. Il est enclin à la colère et à l'orgueil. Il va parfois trop vite, tombe facilement dans l'activisme, s'engouffre dans la confrontation. Dans la direction des autres, il a du mal à respecter leurs sentiments, à les responsabiliser et à les servir. Comment est-ce que le colérique va construire son caractère ? Eh bien, le colérique, il va falloir qu'il fasse preuve d'humilité. Alors, et l'humilité dans la prudence, il doit apprendre à accepter le conseil et la délibération avant d'agir. Dans le courage, alors c'est facile pour lui d'être courageux, hein, mais il doit apprendre la douceur envers les autres. La maîtrise de soi ou la tempérance, il doit mortifier ses passions basses et stimuler ses passions hautes. Et en matière de justice, il doit chercher la concorde pour le bien commun et ne pas tomber dans le mépris des autres. Donc vous voyez, quand je vous disais qu'il y a une vertu qui peut entraîner d'autres vertus, chez le colérique, le fait de pratiquer l'humilité rendra plus facile la pratique des autres, quatre autres vertus. Voilà pour le colérique. Est-ce que certains d'entre vous se sont reconnus, peut-être ? On va passer au mélancolique. Et là, mélancolique, je vous mets une photo de Maria Callas. Maria Callas, sa carrière a commencé en 1949, lorsque Tullio Serafin, qui montait El Puritani de Bellini, à sa cantatrice qui devait chanter Elvira, est tombée malade. 6 jours avant la représentation, et il n'avait personne pour la remplacer. Alors il demande à Maria Callas, et, qui était encore très jeune, qui n'était pas très connue, de jouer ce rôle qu'elle ne connaissait absolument pas. Et Maria Callas va pratiquer la vertu de l'audace, parce que ce n'était pas quelqu'un qui était audacieuse, mais qui était pleine de talent. Et elle va s'entraîner pendant 6 jours, et ça va être un triomphe, et ça va lancer sa carrière. Et elle va totalement transformer, justement parce que c'est un caractère mélancolique, qu'elle est dans les idées, elle va complètement transformer l'art lyrique au XXe siècle. Alors, quelles sont les forces du mélancolique? Eh bien, le mélancolique, il est enclin à une réactivité tardive, profonde et stable. Le mélancolique, il est plein d'idées. Il est enclin à la contemplation. Il cherche la perfection en toute chose. Il est fidèle. Il est patient et persévérant. Il affronte les difficultés avec aplomb. Il est indépendant d'esprit et de vie. Ses faiblesses. Il se laisse absorber par ses pensées et ses sentiments. Il craint l'action imparfaite. Il est enclin au pessimisme. Il s'inquiète pour les détails. Il n'aime pas prendre de risques et ne supporte pas l'incertitude. Il se sent facilement offensé et il peut avoir la critique sévère. Comment le mélancolique va construire son tempérament? Eh bien, comme Maria Callas, en pratiquant l'audace. Dans la prudence, comme il est profond dans l'analyse, il doit prendre de la distance pour délibérer et agir fermement. Dans le courage, c'est difficile pour lui. Il acquiert le courage en s'appuyant sur son endurance pour combattre ses peurs. Pour la maîtrise de soi, il doit s'appuyer sur sa soif d'idéal pour désirer la joie sans entretenir tristesse ou anxiété. Pour la justice, son désir de voir le monde autrement doit le conduire à sortir de lui-même pour y participer. Troisième caractère, tempérament. Vous suivez toujours? Je ne vais pas trop vite, ça va? Le sanguin. Le sanguin, eh ben, je vous ai mis Thomas More. Thomas More, c'était un homme qui avait beaucoup d'amis, qui était blagueur, constant, fidèle. Et qui était le grand chancelier d'Henri VIII. Et lorsque Henri VIII a répudié son exième femme pour en épouser une autre et s'est proclamé chef de l'Église d'Angleterre, Thomas More lui a exprimé sa désapprobation. Et Henri VIII n'était pas quelqu'un qui allait dans la dentelle. Il n'a pas beaucoup aimé cette opposition. Et pour faire réfléchir Thomas More, il l'a enfermé à la Tour de Londres. Il l'a laissé pendant un an. Thomas More a été endurant. Il ne s'est pas laissé fléchir et il a fini par être exécuté. Donc, ce qui caractérise Thomas More, c'est l'endurance, la vertu qu'il a pratiquée. Il est d'ailleurs le patron des hommes politiques. Je ne sais pas si nos hommes politiques iraient se faire couper la tête, mais peut-être un exemple à prendre. Ses forces. Alors, les forces du sanguin, c'est qu'il aime les gens et il veut les rendre heureux. Il est amical, il est communicatif, cordial, généreux, entreprenant. Il aime l'aventure. Ses 5 sens externes sont toujours en éveil. Il remarque tous les détails. La relation est première pour lui. Alors, ça se corse pour ses faiblesses. Eh bien, il a du mal à contrôler ses 5 sens. L'amusement est une motivation. Du coup, il est un peu enclin à la superficialité et à l'instabilité. Il est attiré par tout ce qui est nouveau. Il va vite se lasser. Il veut plaire et que tout le monde l'aime. Comment le sanguin va construire son caractère? Eh bien, il va pratiquer, comme Thomas More, la longanimité et l'endurance. La prudence, il va falloir qu'il apprenne à voir la réalité en face en ne sous-estimant pas la difficulté. Le courage, audacieux, il doit faire attention à la frivolité, il doit aller jusqu'au bout. Il doit être longanime, agir sous le regard de sa conscience et de Dieu. La maîtrise de soi. il va devoir mortifier ses passions basses, ses cinq sens externes. Il stimulera ses passions hautes par sa générosité. La justice, pour construire le bien commun, le sanguin doit vaincre son instabilité. Il doit pratiquer les vertus d'endurance et de fidélité. Enfin, quatrième tempérament, le flegmatique. Je vous remets une photo du professeur Lejeune. Alors, ses forces. Je vous ai raconté son histoire, donc je ne reprends pas. Il a une approche, le flegmatique, il a une approche rationnelle et scientifique. Il a une bonne écoute et il sait être emphatique. Il a un sens profond du devoir et il aime la coopération. Sa volonté de faire lui permet d'être constant, persévérant et de garder son calme. Quelles sont ses faiblesses ? Eh bien, il a une réactivité tardive et éphémère. Il a peur de faire des erreurs et a besoin d'être sécurisé. Il aime être dans le sens du courant. Il n'aime pas le changement. Les obstacles peuvent lui paraître insurmontables. Le flegmatique aime, préfère la paix à toute éventualité et peut même tomber dans l'irénisme, dans l'inaction totale. Alors, comment va-t-il construire son tempérament ? Eh bien, il va faire comme le professeur Lejeune, il va voir grand, il va pratiquer la magnanimité. Dans la prudence, il doit pratiquer l'audace pour dépasser sa peur et de se tromper et d'agir. Pour le courage, avec sa volonté de faire et sa persévérance qui lui permettent d'être endurant, il doit pratiquer l'audace. Pour la maîtrise de soi, le flegmatique doit stimuler ses passions hautes et vaincre sa peur des situations conflictuelles. Il doit être prêt à sacrifier sa paix à une valeur plus élevée. Et en matière de justice, il doit apprendre à vaincre son apathie pour construire le bien commun. Le professeur Lejeune était un flegmatique magnanime. Je vous rappelle la phrase qu'il a dite. Il faut dire clairement les choses. La qualité d'une civilisation se mesure au respect qu'elle porte aux plus faibles de ses membres. Donc nous avons vu les quatre caractères, nous avons vu les quatre vertus cardinales. Et je voudrais vous parler assez rapidement, parce que je pense que vous le reverrez avec le frère Maximilien, le frère Carme, alors très vite, parce que je me rappelle à l'ordre. Quels sont les caractères, les vertus du leadership. Alors, je vous mets une photo de quelqu'un que vous connaissez, je pense, là. Hein. Il a deux vertus indissociables, le leader. Il a la magnanimité. C'est la première des vertus du leader, c'est-à-dire une quête de l'esprit pour les grandes choses. Le magnanime, il cherche la grandeur et non la reconnaissance. Et je crois que le père Hervé, il cherche ce qu'il y a de plus grand pour ses fidèles. Le bon, le vrai, le beau, la vérité dans le Christ. Je crois qu'on ne peut pas offrir de plus beau cadeau aux gens que ce que fait le père Hervé. Je ne vous sers pas les bottes, hein, mon père. L'humilité, c'est que je le pense. C'est la seconde vertu des leaders. Il aide à prendre conscience de notre dignité et de nos talents. Il donne à ceux qu'il dirige la capacité de se réaliser et d'eux-mêmes et d'atteindre la grandeur. Alors, le père Hervé, c'est quand même un berger pour ses ouailles, hein, pour ses brebis. Il est disponible, je sais pas, 7 jours sur 7, 15 heures par jour, 365 jours par an. Et j'avoue que dimanche matin, en arrivant, j'ai été très impressionnée quand je suis descendue et que j'ai vu que mon père, vous donniez la peine de dire bonjour à chaque servant de maître et servante de Marie qui arrivait, en prenant le soin de les appeler par leur prénom. Comme Dieu nous appelle par notre prénom, et bien vous donniez la peine de les appeler par son prénom. Donc voilà, pour moi, un bel exemple de leader. Alors, on va vite reprendre la pyramide des vertus. On va commencer par le fondement des fondements. C'est l'humilité fondamentale. C'est la connaissance de soi. Reconnaître que nous avons reçu nos talents, que c'est un don, que nous n'avons pas en tiré orgueil. Saint Paul, dans la quatrième lettre aux Corinthiens, le formule ainsi. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu? Notre liberté consiste justement à la faire fructifier, avec le fondement que sont les quatre vertus cardinales. La prudence, qu'on a vu, qu'il s'agit de prendre de bonnes décisions. Le courage, prendre le risque, des risques et tenir le cap. La maîtrise de soi, diriger nos passions. Et la justice, chacun donner à chacun son dû. Et puis l'essence. L'essence, c'est ce qu'on va chercher à atteindre en ultime, c'est-à-dire la magnanimité, tendre vers les grandes choses, et donc vers Dieu, et l'humilité fraternelle, servir les autres. Voilà, alors on vient vite à notre quatrième partie, parce que je crois qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Ça va être, on va parler de la grâce. À une personne qui pratique les vertus, Dieu donne sa grâce, qui va perfectionner l'agir moral. Ce va se faire de deux manières. C'est une force qui va nous donner... La première manière, c'est une force. Quand j'ai du mal à me motiver pour faire quelque chose que je dois faire, conduire des enfants, réunir des salariés, des copies à corriger pour un enseignant, si je ne le fais pas non par devoir, mais par amour pour ceux qui font en bénéficier, cela devient plus facile. Parce que Dieu va influer dans ce que je fais, le don de la charité. Ce don de la charité se diffuse dans les vertus, dans l'endurance et l'humilité que je mets en pratique en faisant ma conduite, ma correction de copie ou autre. La charité, elle va me donner une force supplémentaire pour aimer mon prochain. Une force qui diffuse dans les actes et qui rendra leur réalisation en vue du bien plus aisée. L'amour de la charité est une force reçue de Dieu. Et il en est même pour la foi et pour l'espérance qui sont les trois vertus théologales. Cette grâce, elle se met au-dessus de la pyramide des vertus et va irriguer tout le reste. Alors, j'ai choisi une dernière image, j'espère qu'elle ne va pas vous choquer, mais pour moi, elle était très expressive et ça me fait beaucoup aimer la grâce et les vertus. Voilà, c'est... Voyez, les vertus, ce sont les profiteroles et la grâce, eh ben, c'est le chocolat liquide qui coule dessus, qui se diffuse, qui les remplit et qui leur donne toute leur saveur. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, ça sera la même chose avec les deux autres vertus théologales qui sont la foi, l'espérance et ainsi avec les sept dons de l'Esprit-Saint que nous avons reçus à notre baptême et que nous avons reçus à nouveau à notre confirmation, qui sont la sagesse, l'intelligence, le conseil, la science, la piété et la crainte de Dieu. Cette force, je vous dis que c'est une force, voyez, qui se diffuse, elle est orientée vers Dieu lui-même. C'est-à-dire que l'agir moral n'a pas que Dieu comme bien. Notre finalité, c'est quand même de nous rapprocher de Dieu, d'être des saints, d'agir le mieux possible. Elle n'a pas que l'agir moral n'a pas que Dieu comme bien, comme perfection de bonté. La grâce va me donner comme fin la béatitude d'être unie à Dieu éternellement. C'est une dimension nouvelle qui s'ouvre, vivre éternellement avec Dieu dans la sainteté. Dieu nous surélève. Donc de manière habituelle, les vertus théologales donnent cette force qui influe dans les vertus cardinales en les orientant, ce que la nature ne peut pas faire naturellement. Et alors, quand on parle de béatitude, j'ai repris le texte des béatitudes et il y a deux ou trois versets qui m'ont marqué parce que je me dis que vraiment, nous pouvons répondre vraiment aux béatitudes si nous pratiquons les vertus. La troisième, sur les béatitudes de Matthieu, 5:3, il dit « Heureux ceux qui sont doux ou humbles, car ils hériteront de la terre », c'est-à-dire les personnes qui pratiqueront l'humilité. « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés ». Lorsque nous pratiquons la vertu de justice avec charité, eh ben, nous serons rassasiés. « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux ». Quand nous avons le courage de défendre notre foi dans l'endurance, eh bien, le royaume des cieux nous attend. Voilà. Alors, en conclusion, j'espère que vous repartirez ce soir rempli d'espérance, comblé par les dons que vous avez reçus de Dieu, dont vous êtes dépositaire et dont vous avez à faire fructifier, plein d'enthousiasme pour continuer à cultiver vos talents, pour vous et surtout au service des autres, parce que vous êtes tous, nous sommes tous appelés à faire des grandes choses dans notre quotidien. Que vous continuerez à pratiquer les vertus pour gravir ce chemin de sainteté qui nous conduit jour après jour dans le cœur du Christ, sous le souffle de la grâce. Je vous remercie.